Nous sommes dans la forêt de Plougastel d'Aoulas, au fond de la rade de Brest, avec le préhistorien Nicolas Nodino, du laboratoire Culture et Environnement, Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge. Nicolas, pouvez-vous nous décrire un peu le site sur lequel on se trouve ?
On est dans le bois de Kéréroth, à Plougastel, au pied d'une grande barre de roche de grès armoricain, d'une trentaine de mètres de haut. Et au pied de cette falaise, on a un petit décrochement qui crée un abri sous roche, et un abri sous roche qui a été occupé par les hommes préhistoriques, hein, il y a environ 14 000 ans, durant ce qu'on appelle l'Asilien. Alors, le site a été découvert dans les années 80 par Michel Le Goffic, qui était responsable du service archéologique du département du Finistère. Et donc, il a été découvert totalement par hasard. Mon collègue était venu pour des tessons de céramique sur le haut de cette falaise. Et puis, par hasard, il est descendu au pied de cette falaise et a découvert quelques éclats de silex dans un terrier d'animal. Alors, ce site, il est exceptionnel à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'on est sur une période de la préhistoire qui est très mal connue à l'échelle française, qu'on appelle l'Asilien ancien, qui est une période qui est connue sur très très peu de sites, et notamment des sites fouillés récemment en France. Et au-delà de ça, c'est un des rares sites paléolithiques supérieurs de Bretagne, et donc en ça aussi, il est assez exceptionnel.
Le rocher de l'Impératrice a livré énormément d'objets depuis qu'il est fouillé, hein, depuis donc 2013. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire de quoi il s'agit ?
Comme un archéologue classique, hein, ce qu'on va retrouver, nous, c'est les poubelles des hommes préhistoriques, ce qu'ils ont laissé il y a donc environ 14 000 ans. Et dans ces poubelles, ce qu'on a essentiellement, c'est des restes d'objets en pierre, en silex en l'occurrence, des outils, des déchets de taille. Donc on a énormément d'outils de ces populations, des pointes de flèches, des couteaux. Et à côté de cet équipement, qui a été utilisé pour des travaux de chasse, de boucherie, on a également des plaquettes de schiste sur lesquelles ont été gravées des choses, et notamment des animaux. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité de ce site, hein, c'est cette découverte de plus de 100 fragments de plaquettes de schiste gravées, qui sont les témoignages les plus anciens d'art préhistorique en Bretagne, et d'ailleurs le seul site à avoir de l'art préhistorique en Bretagne, et également un des très rares sites de l'Asilien ancien à livrer de l'art en Europe. On a une centaine d'éléments, certaines sont toutes petites, hein, pour la plupart ce sont des petits fragments de schiste avec quelques traits qu'on ne peut pas reconnaître, hein, des fragments de représentation. Et certaines d'entre elles sont plus complètes et montrent des animaux, alors surtout des chevaux. On doit avoir 7 ou 8 chevaux aujourd'hui, et 2 aurochs. On regardait avec Caroline, ici, il y a effectivement quelque chose qui semble être gravé là. Là, on a une autre. Et Carole, il y a peut-être des stries de sortie,
ouais,
ici.
Peut-être.
Donc là, tracé plus profond, plus large, plus profond, et là, deux tracés plus fins, sur lesquels on a des stries parasites et des sillons qu'on regardait avec Caroline tout à l'heure. Donc voilà, il faut voir ce que c'est, mais c'est clairement un bout de quelque chose de gravé avec des tracés différents entre ces deux grandes gammes de tracés, quoi.
Est-ce que c'est pas un peu étrange, enfin effectivement, de trouver à la fois ce que nous on pourrait qualifier d'art et effectivement des objets plus quotidiens. Vous parliez de boucherie, de chasse. Est-ce que ce mélange est pas un peu étonnant ?
Alors, on a une tendance à vouloir scinder en fait hein, ces témoignages graphiques, symboliques, des témoignages domestiques, d'outils, d'équipements, de poubelles. En réalité, tout ça est totalement intégré dans la vie de ces communautés. Et rien n'interdit qu'il y ait à la fois des activités tout à fait domestiques et des activités qu'on considère, nous, être artistiques, qui ont en tout cas un rôle particulier pour ces populations. Tout ça est totalement intégré. On n'a pas des sanctuaires d'un côté, des sites d'habitat de l'autre. Et le rocher de l'Impératrice permet justement de monter cette intégration de ces différentes activités au sein des communautés préhistoriques.
Est-ce qu'on sait de quelle façon, plus précisément, ce site a été occupé et par qui ?
Alors, on a une chance sur ce site, c'est qu'il a été occupé à un seul moment de la préhistoire, uniquement à l'Asilien ancien. On n'a pas de mélange de différentes périodes qui s'accumulent, etc. Et on sait que pendant cet Asilien ancien, on a des petits groupes qui sont venus sur ce site à plusieurs reprises, mais pour des durées très courtes. Donc on a des petits groupes de personnes, entre 5 et 10 personnes, qui viennent régulièrement, à un rythme qu'on ne maîtrise pas, sur ce site pour des activités qui sont vraiment orientées vers la préparation de la chasse, avec la fabrication de pointes de projectiles, le retour de la chasse, avec la réparation de cet armement et aussi énormément d'activités de découpe de gibier. Donc on a énormément de pointes de flèches, énormément de couteaux qui ont servi à découper ce gibier. À côté de ça, on a également des traces de cendres, des grandes concentrations de cendres qui semblent témoigner de l'allumage de beaucoup de petits foyers. On se pose encore la question du rôle de ces foyers sur ce site, mais l'idée de boucanage, de fumage, hein, est une idée qu'on essaye de développer et qu'on essaie de confirmer durant cette campagne et durant nos analyses. Alors ces populations sont des populations nomades, hein. On est dans le paléolithique. Le paléolithique est caractérisé par des populations de chasseurs-collecteurs nomades, hein, qui vont collecter leurs ressources par la prédation, que ce soit la pêche, la chasse, la cueillette. Voilà, ici sur ce site, on pense plutôt qu'on est sur une petite partie du groupe qui se détache du reste à un moment de l'année pour venir sur ce site pour des activités très spécialisées et pour ramener ensuite ces ressources sur un campement plus large.
Je veux bien qu'on revienne un peu sur tous ces objets que vous avez déjà mis au jour sur le site. Pourquoi est-ce qu'ils vous intéressent tout particulièrement et surtout de quoi témoignent-ils ?
Alors cette période, c'est une période très intéressante, hein, c'est asilien ancien, donc il y a environ 14 000 ans. C'est une période extrêmement intéressante parce qu'elle se situe à la charnière entre deux grandes entités technologiques, on va dire, hein, des façons de faire différentes. C'est-à-dire qu'avant cette période-là, on a des communautés préhistoriques qui vont produire un outillage très régulier, très normé, avec des méthodes très exigeantes sur le plan technique, qui demandent certainement un apprentissage fort, du temps d'apprentissage, du temps de travail, un fort investissement et des matériaux de très bonne qualité. Et puis après ça, dans l'asilien, on a une période au contraire où on a une très forte simplification, des matériaux plus locaux, moins d'investissement, des productions qui sont peut-être plus ouvertes, hein, peut-être que plus de gens peuvent produire ces outils. Et nous, on se situe à la charnière entre ces deux mondes, en fait, hein, sur le moment de transformation de ces systèmes. Et donc c'est en ça que cette période, autour de 14 000 ans à peu près, hein, est très intéressante, puisqu'on est vraiment au moment où se produisent ces changements. Est-ce que l'environnement qui se transforme très rapidement à cette période joue un rôle ? Quel est ce rôle ? Quelle est la place des comportements culturels aussi dans ces mécanismes ? Ça, c'est tout l'enjeu de notre travail. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce site illustre bien une réalité qui est très importante en préhistoire et en archéologie en général, c'est qu'il n'y a pas d'évolution linéaire. Ça veut dire qu'on a tendance à imaginer dans notre monde aujourd'hui, hein, que les technologies deviennent de plus en plus élaborées, de plus en plus adaptées. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. En fait, on voit bien dans la préhistoire, et c'est le cas entre ce Magdalénien et cet Asilien, qu'il y a des moments où justement les techniques deviennent beaucoup plus simplifiées, moins exigeantes, des matériaux de moins bonne qualité, etc. Et que tout ça est totalement adapté.
Vous mentionniez là à l'instant les changements environnementaux, justement, qui conditionnent aussi la vie de ces hommes de la préhistoire. Il y a un changement majeur, hein, qui s'est produit à cette période-là, peut-être ?
Aujourd'hui, on est ici dans une grande forêt de feuillus, en milieu littoral, on est sur le bord de mer. Et l'environnement, en fait, a énormément changé depuis l'occupation de cet abri sous roche il y a 14 000 ans, puisque à cette époque, hein, on est dans une période de changement climatique important, avec un réchauffement qui s'initie autour de cette période-là, avec des petites phases froides à l'intérieur, mais une dynamique de réchauffement. Mais on sort d'une période très froide, et donc l'environnement du côté de Plougastel, hein, est à l'époque encore très ouvert, on a quelque chose de beaucoup plus steppique, pas de feuillus, quelques arbres peut-être un peu dans le fond de la vallée, mais quelque chose de très très ouvert. Et surtout, la mer n'est pas là. Hein. Donc aujourd'hui, Brest, qui est une ville littorale, hein, était une ville très continentale, hein, puisque le trait de côte était plus loin de près d'une centaine de kilomètres. Hein. La mer était plus basse de 80 à 100 mètres. Et donc le littoral se situait au large de l'île Ouessant. La Manche n'existait pas. On pouvait traverser à pied sec l'actuelle Manche. Alors la faune était également très différente. On a à l'époque, a priori, je dis a priori parce qu'on n'a pas de reste de faune sur le rocher de l'Impératrice, et c'est le cas en Bretagne en général, puisque le sol est trop acide pour conserver ses ossements. Mais ce que l'on sait à partir des régions voisines, mais aussi à travers ces représentations sur les plaquettes gravées, c'est que les animaux chassés par ces populations étaient plutôt des chevaux, des aurochs. On sait que le renne, qui a été très important dans la période qui précède, est en train de disparaître, il est en train de migrer vers le nord autour de 14 000 ans. Donc cet animal-là est en train de disparaître des paysages au profit des cerfs qui commencent à s'installer dans l'environnement.
Donc c'est l'avant-dernière campagne, l'avant-dernier été où vous fouillez, votre équipe et vous. Qu'est-ce que vous espérez encore trouver ici au Rocher de l'Impératrice ? Est-ce qu'il y a une pièce du puzzle qui manque encore pour interpréter ce site ?
Alors effectivement, on est plutôt sur l'avant-dernière campagne. On va voir, hein, ce qui se passe à la fin de cette année-là, si on change d'avis d'ici là peut-être, mais a priori c'est l'avant-dernière campagne. L'idée d'arrêter, c'est aussi qu'on a envie de laisser des zones non investies, hein, des réserves archéologiques pour les générations futures qui auront peut-être d'autres approches que nous, d'autres moyens que nous également. Maintenant, on n'a pas de pièces manquantes du puzzle, hein, ou de zones d'ombre particulières. L'idée, nous, maintenant, c'est de préciser les scénarios qu'on a construits au fil de ces années, d'avoir des archives, certaines archives sédimentaires notamment, qui nous permettront de travailler dans les années à venir. Et en fait, on a beau arrêter le terrain, il y a maintenant un énorme travail qui nous attend d'analyse, hein, avec une équipe internationale, hein, pluridisciplinaire sur ce site, pour pouvoir maintenant exploiter ces données et mieux comprendre le mode de vie de ces populations qui sont passées à Plougastel-Daoulas il y a environ 14 000 ans.
Merci beaucoup Nicolas et bonne fouille.